Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie sur RDWA. C'est l'épisode 47 de l'Étoile Polaire et aujourd'hui, nous sommes tous réunis dans le studio, toute l'équipe, tous les quatre. Ça faisait un moment que ce n'était pas arrivé. Donc Axel, Pierrick, Rémi et Fred.
Salut tout le monde.
Hello, salut.
Donc on est heureux de vous retrouver et alors quel sera le sommaire de cette émission? On va commencer par quelques actus du monde de l'astronomie. Ensuite ce sera comme d'habitude le ciel ce soir où on vous présentera ce que vous pouvez observer en ce moment. Après je ferai un petit point d'astro, cette fois on va revenir sur de la physique hein, après les trois émissions sur l'astrologie. Et là on va parler de chute des corps. Quand les objets tombent. Et est-ce que ça peut nous évoquer en science ou comme réflexion? Et puis après, à la pause musicale, on aura la chronique spatiale de Pierrick qui va continuer sur sa lancée d'archéo-astronomie.
Ouais, là, je vais continuer là-dessus et plus parler de Stone Age, de Karnak, des choses un peu européennes, du néolithique.
Tous ces alignements.
Et ces alignements, tout ça. Ouais.
Et pour terminer, ce sera Rémi, toujours envoyé spécial. Donc après l'Australie, maintenant, c'est le pic de Bure.
Voilà, récit d'une belle marche pour monter en haut à l'observatoire.
D'une belle marche et puis de la visite de l'observatoire et de nous raconter un peu ce qui se trame là-bas. Ouais. Voilà pour ce sommaire. Alors, avant de commencer, on vous rappelle que l'émission est disponible en podcast sur le site de RDWA, rdwa.fr. Ensuite, vous allez dans émission, puis émission thématique. Et là, c'est l'étoile polaire, avec un L. Avec les photos qui illustrent le podcast, sont les photos de Rémi ou d'Axel, les membres de l'équipe. Et puis, ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est qu'on prépare Marignac, la deuxième édition de Marignac Fête les Étoiles, enfin la deuxième que nous, on organise. Et ça se passera le week-end du 14 juillet. Donc voilà, le samedi ou le dimanche, ce n'est pas encore clair, mais en tout cas, ce week-end-là, à Marignac, à la base de loisirs, il y aura de l'astronomie. Et il y aura aussi une journée enfant toute la journée. Donc voilà, pas mal de choses où on espère vous retrouver. Donc, pour l'instant...
J'allais dire, on en parlera plus en détail la prochaine émission, probablement.
Oui.
Mais vous pouvez déjà faire une croix sur le calendrier pour le, c'est ça. Le 15 et 16 juillet.
Voilà.
L'un ou l'autre.
Alors, on va commencer cette émission par quelques actus. Moi, ce que j'ai relevé, c'est que c'était en ce moment, en début du mois de mai, le maximum d'un essaim d'étoiles filantes qui sont les états aquarides, voilà, Aquarius du signe du Verseau. Et donc état une de ces étoiles, et donc on a l'impression en fait que c'est on peut expliquer ça, c'est toujours un peu, si vous amusez à relever sur une carte en fait du ciel la direction d'une étoile filante que vous voyez. Souvent, en fait, il y a des moments de l'année, et il y en a plein, on parle des Léonides, on parle d'autres moments, où en fait, on va avoir pas mal d'étoiles filantes, plusieurs, peut-être même plusieurs dizaines par heure. Oui. Et si on fait une carte, on reporte les directions sur la carte, et qu'on prolonge ces lignes, on a l'impression que toutes ces petites étoiles filantes proviennent d'un même point. Alors bon, c'est une illusion d'optique, un effet de projection, on ne va pas revenir là-dessus. Elles ne viennent pas du tout de cette étoile-là, parce qu'on rappelle que c'est dû au fait que la Terre sur son orbite balaye en fait des trajectoires de comètes qui sont elles-mêmes pleines de poussière, et donc la Terre rentre là-dedans et ça crée ces étoiles filantes. Donc voilà. Et là, en ce moment, pourquoi cet amas ? Alors, il n'est pas du tout remarquable par son intensité. Mais il est remarquable parce que c'est celui de la comète de Halley. C'est-à-dire que là, on est en train de traverser la trajectoire de la comète de Halley. Et c'est une comète qui nous visite tous les 76 ans. Donc il y en a peut-être certains qui l'ont vue. Elle est passée en 1900, je crois que c'était 85. Et elle repassera donc en 2061. Voilà. Et donc, en ce moment, on est en train de traverser sa trajectoire. Et si vous voyez des étoiles filantes, peut-être qu'elles proviennent de cette fameuse comète de Halley.
Mais le Verseau, on ne le voit pas en ce moment.
Bon, en fin de nuit, alors...
Le Verseau ?
Oui. Puisque c'est l'essaim, la pluie d'étoiles filantes qui vient du Verseau. Puisque c'est les aquarides.
Oui, entre le Capricorne et le Verseau. Ouais.
Donc en ce moment, on n'a pas beaucoup de moment, c'est pas... on doit peut-être pas voir
oui, non,
toutes
mais
les étoiles
ça,
filantes.
En fait, on n'a pas besoin. En fait, c'est si tu prolonges les trajectoires que ça semble venir de là. Mais les étoiles filantes, elles se baladent complètement dans
d'autres
parties du ciel.
Oui, mais c'est pour ça que du coup, on doit avoir une partie qu'on ne voit pas de cet essaim. Parce que par exemple, la nuit des étoiles filantes au mois d'août, qui concerne l'essaim d'étoiles filantes des Perséides, on voit Persée à ce moment-là. Oui. On peut s'amuser à regarder les dizaines, voire centaines d'étoiles filantes qui arrivent par heure. Et à retracer, à tomber sur Persée, la constellation qu'on voit.
Alors là,
le Verseau, non. Mais on doit voir, par contre, si elles sont assez longues, elles arrivent jusque dans notre ciel.
C'est ce que je te disais, il n'est pas forcément remarquable par son intensité, cet essaim-là.
Mais en tout cas, pas sous nos latitudes.
Non.
Mais, ok.
Donc, voilà.
Rémanent de la comète de Halley.
Ce petit passage de la comète de Halley. Ouais, mais je ne sais pas, j'aime bien cette comète parce qu'elle est à taille humaine. 76 ans, il y a un côté...
Oui, c'est rare les comètes qui reviennent régulièrement à taille humaine. Il n'y en a pas beaucoup.
Ouais. C'est ça. D'ailleurs, elle a un nom.
Les dernières comètes qu'on a vues, elles sont parties, elles ne reviendront jamais.
La dernière, par exemple, on sait qu'on ne la reverra plus.
Voilà.
Oui, elle... ZTF.
Voilà, c'était juste mentionner ça. Alors ensuite, on voulait parler un petit peu de l'actualité de Starship, donc de notre cher ami Elon Musk.
Et, son entreprise spéciale.
Donc on rappelle en fait que ce monsieur, son entreprise en tout cas, possède un programme spatial privé qui concurrence en réalité celui des États. Sauf que pour l'instant, il n'arrive pas à envoyer ses fusées et à chaque fois, elles explosent. Donc
Son
objectif, c'est aussi d'envoyer du monde sur la Lune.
Puis sur Mars ensuite. Ce vaisseau-là dont on va parler, c'est le Starship qui est propulsé par une Falcon Heavy, j'imagine, dessous, qui est son lanceur.
C'est
un truc à part.
C'est une énorme fusée.
C'est
plus gros. Ça a l'air monstrueux.
C'est plus gros que la Saturn V, la SLS, voire plus gros.
Oui, mais déjà, sa Falcon Heavy, parce qu'ils utilisent à SpaceX la Falcon 9 pour lancer des Starlink ou autre, parce qu'ils ont des contrats, comme tu disais.
Les Starlink, c'est tous les petits satellites qui nous mettent en orbite pour la 5G, pour tout ça.
Le petit train qu'on voit.
Pour l'Internet privé aussi. C'est pas une nouvelle technologie. Je crois que c'est de la 4G, précisément, mais... Donc ça c'est les Falcon 9, le Falcon 9 qui lance ça et qui lance aussi d'autres satellites à but scientifique ou militaire ou de ravitaillement de l'ISS, tout ça.
Et ça,
c'est les Falcon
9,
ça marche très bien.
Avec les lanceurs qui se reposent.
Voilà, avec les fameux lanceurs qui se reposent à l'endroit où ils sont partis ou pas loin. Après il y a la Falcon Heavy qui est plus grosse que la Saturn V dont tu parlais. Celle-là il l'a fait voler une fois. Ça date un peu, c'était quand ? C'était l'année dernière, je crois, dans l'automne dernier. La Falcon Heavy, qui est une grosse fusée. Et là, c'est encore un troisième projet. C'est le vaisseau, lui, s'appelle le Starship. Et c'est lui qui est destiné à aller sur la Lune, mais aussi sur Mars. Et dessous, il y a un lanceur dont j'ignore le nom. À la base, le nom de ce projet, c'était le BFR, le Big Fucking Rocket. Et puis bon, il a renommé Starship. Et donc, il y a eu un lancement, je ne sais pas si tu as la date.
Il y a eu la semaine dernière, il y a deux semaines. C'était à la fin du mois d'avril, fin du mois d'avril. Et ils ont, et en fait, bon, qui a échoué. Et
un lancement test, il n'y a personne dedans. Voilà, pas de blessés.
Et la fusée a explosé, a été détruite en fait, elle déviait de son orbite, ça n'allait pas. Et en fait, en réalité, il y a eu des... elle est tellement énorme cette fusée que... déjà ça, je ne sais pas si c'est lié à son explosion, mais en tout cas, au moment du décollage, elle a complètement ravagé son pas de tir en créant un cratère phénoménal.
Je crois qu'il y a 36 moteurs... dessous. C'est énorme.
Oui.
Donc, je ne sais pas si l'idée, c'est de détruire en fait, les installations de décollage à chaque fois que tu décolles.
Normalement, non.
Et ensuite, il y a eu un énorme blast, une énorme onde de choc due à l'explosion de la fusée qui a en fait soulevé énormément de poussière. Donc apparemment, certains villages qui ont été recouverts de poussière et juste à côté, il y a un parc naturel donc avec tout un tas d'espèces de faune et de flore qui sont protégées là et qui ont été impactées très clairement par l'explosion de la fusée. Donc en fait, il y a toutes les associations et tous les écologistes qui montent un peu au créneau là-bas et qui disent qu'est-ce que vous faites. Voilà donc un peu la suite des merveilles de Elon Musk.
Pour les détails techniques, je crois que tu disais 36 moteurs, tu as dit.
Je crois.
En tout cas, il y a une grosse poignée de moteurs dessous. Il y en a certains qui ne sont pas lancés dès le démarrage, mais bon,
oui,
elle a décollé quand même.
qu'on voit par-dessous la fusée et on voit que.
Oui, mais même sur les vidéos officielles, il y a même sur l'affichage où il y a la vitesse, l'altitude et tout, il y a tout un petit affichage en surimpression. Et il y a un schéma de tous les moteurs vus par-dessous. On voit qu'il y en a deux ou trois qui ne s'allument pas dès le démarrage, il y en a quelques-uns qui s'éteignent ensuite. La fusée passe quand même ce qu'ils appellent le Max Q, qui est le moment où il y a le plus de contraintes mécaniques sur la fusée, le moment où il y a le plus de pression. C'est une certaine altitude et une certaine vitesse qui donne cet endroit dans le lancement d'une fusée, le Max Q. Normalement, une fois que tu as passé ça, tu es tranquille, il n'y a plus rien qui va se disloquer derrière ou quoi. Donc, ils ont passé ça quand même. Mais c'est un peu plus haut, le moment de la séparation. Vous savez, les fusées, ça se détache, il y a des pièces qui se détachent, qui retombent, qui se reposent pour celle de SpaceX ou d'autres. Et là, la séparation n'a pas eu lieu. Et ensuite, du coup, ça s'est mis à tourner jusqu'au moment où ça a explosé.
Juste une petite parenthèse, là, l'étage qui doit se séparer et qui doit redescendre lui aussi pour le récupérer. Ils ont un immense bras mécanique. Donc, c'est des fusées qui font 100 mètres de haut. Et quand il y a un étage qui se détache, il doit faire au moins 50 mètres de long, voire plus.
Ouais.
Et pour le récupérer, ils veulent le retourner, le mettre le réacteur en bas, le ralentir quand il descend vers la Terre. Et là, sur un énorme portique, une espèce de grosse pince énorme qui vient l'accrocher.
Ah, j'avais pas vu ça.
Ah, ça, c'est en projet, je crois que ça n'a jamais été fait. Mais c'est
bon, en tout cas, là, le but était surtout de tester tout ce matériel. Il y a eu des défauts. D'ailleurs, il y a eu des défauts aussi sur la fin avec l'explosion, parce qu'il y a, une séquence d'autodestruction qui est quelque part dans le programme de la fusée et qui peut se déclencher selon les conditions. Et même lui, apparemment, a bugué quand même. D'où la destruction chaotique. Est-ce que c'est à cause de ça? Peut-être que ça serait mieux passé pour les alentours sans ça.
Je ne sais pas. Rien. En tout cas, c'est un échec. Voilà.
C'est un essai nuancé d'échec. Mais c'est vrai que pour eux, c'est quand même surtout un essai. C'est un prototype, un crash test. Un peu.
C'est sûr.
Envoie quelque chose, on voit ce que ça donne et on en tire les résultats. C'est aussi comme ça que ça avance. Mais c'est un petit goût d'échec quand même sur beaucoup de points importants du truc. Ouais.
C'était à la fois pour effectivement pointer deux choses. La première, c'est le fait qu'effectivement, c'est comme tu le dis, un test parmi d'autres. De toute façon, c'est comme ça que ça avance, ce genre de projet. On rate, et puis après on réussit, et puis après on rate, et on avance, etc. C'est non-stop. Donc ça, c'est une chose. Donc c'est pour dire que lui, il continue à travailler, et que même si on ne parle pas forcément beaucoup de son programme, il avance. Et deuxième chose, c'est aussi de voir la façon dont c'est fait, avec effectivement cet impact, sans parler de l'impact environnemental du spatial, mais à la fois dans sa construction, dans sa consommation.
En parlant de l'impact environnemental
local, par rapport à l'implantation du site et par rapport au fait qu'ils n'en ont rien à faire.
Oui.
Bon, voilà. C'était juste ça. Voilà, un petit point d'actu. Et on en avait un dernier qui concernait la mission JUICE, dont on a déjà parlé la dernière émission. JUICE, c'était un acronyme pour Jupiter Icy Moon Explorer, donc l'explorateur des lunes glacées de Jupiter. Et donc cette mission, elle est partie et elle venait d'être lancée. On avait expliqué qu'elle devait tourner un petit peu autour de nous et de Vénus pour profiter des effets de sondes gravitationnelles. De fronde gravitationnelle, pardon. Mais par contre, apparemment, il y a un souci technique, Axel, tu disais.
Le lancement s'est très bien déroulé à bord d'une Ariane 5 lancée depuis Kourou. Le lancement n'a pas eu de souci, mais par contre, après, il y a toute une phase de déploiement des différents organes de la sonde, les panneaux solaires, les antennes. Et justement, c'est une antenne là, qui ne se déploie pas. Il y a une petite vidéo qui est sortie, parce qu'il y a des caméras un peu embarquées. Et on voit la sonde, ça ressemble un peu à l'antenne, ça ressemble un peu à un store qui commence à s'ouvrir et puis qui bloque. Et puis du coup, il re-rentre et il s'ouvre de quelques centimètres, mais pas plus, alors qu'il doit faire, je crois que c'est 16 mètres de long normalement. Ouais. Donc il pense qu'il y a un petit
caillou.
une petite fraction de quelque chose qui serait coincé quelque part. C'est un instrument assez important pour la mission, puisque c'est une sorte de sonar qui va sonder les profondeurs des lunes glacées. Et c'est un peu tout le but de la mission.
C'est vraiment le cœur. L'idée, c'est de voir un peu sous les surfaces glacées, de voir cet océan liquide, de voir comment ça se passe, plus concrètement. Si ça ne se fait pas, la mission, elle perd un peu son intérêt.
Oui, j'imagine qu'il y a d'autres instruments. Il y a 12 instruments embarqués, ça en est un des 12 là, donc les autres pourront quand même fonctionner et donner des infos. Mais celui-ci qui peut scanner jusqu'à 9 km de profondeur sous la glace, sous la surface, pour l'instant ne se déploie pas. Alors ils ont un plan, pour l'instant, ils ont même deux plans, c'est de secouer la sonde, d'utiliser les moteurs et les roues gyroscopiques à l'intérieur pour la secouer, voilà, pour peut-être décoincer s'il y a une particule quelque part. Et aussi de mettre face au soleil cette partie bloquée pour la réchauffer et peut-être aussi, se faisant, débloquer quelque chose en réchauffant un peu les matériaux.
On espère qu'ils trouveront une façon de déployer cet instrument et que ça pourra continuer dans d'autres conditions. Voilà. Voilà un peu pour les actus de cette galaxie astronomie. Et on va passer au ciel ce soir. Voir un peu ce qu'on peut observer. Alors en ce moment,
s'il n'y a qu'un truc à citer en ce moment,
c'est Vénus.
Oui. Ouais,
tout le monde demande c'est quoi cet astre qui brille.
Star du moment.
Donc voilà, dans le couchant, là, le point le plus brillant que vous voyez, c'est Vénus.
Vers l'ouest.
Ouais. Assez haute quand même, mais bon.
Ouais, encore assez haute, même à 22h. Ouais.
Très brillante.
Qui va indéniablement. Descendre petit à petit, mais pour l'instant, c'est vraiment la chose qui frappe le ciel.
Dans le courant du mois de mai, elle va finir par redescendre.
Je ne sais plus quand est-ce qu'elle disparaît.
Fin mai, elle commence à redescendre.
C'est ça, oui.
Fin du mois.
À part ça, à l'opposé de Vénus, tout à fait de l'autre côté, on a Arcturus qui brille pas mal aussi. Ça fait plaisir de retrouver Arcturus, cette étoile phare de l'été. Et
Spica aussi.
Et sinon, un peu orangé, Arcturus, légèrement.
Très légèrement orangé.
Rougeoyant. Dans la queue de la grande ours. Elle est facilement repérable.
Oui, c'est ça. En prolongeant la queue de la grande ours, on tombe sur Arcturus.
Oui, l'arrondi, l'arrondi de la casserole.
C'est ça. Ouais. Dans la constellation du Bouvier. Avec Arcturus, du coup, le ciel d'été commence à arriver, puisque j'ai fait une animation la semaine dernière, là, début mai. Où j'ai pu montrer M13, l'amas d'Hercule, qui n'est pas très loin de cette étoile. Et puis sinon, toujours, oui, les galaxies, j'allais dire, les constellations du moment au sud sont toujours le Lion, assez visible, le Lion même, quelques jours, hier, avant-hier, avec la Lune très présente, donc assez peu d'étoiles présentes, on voyait encore bien le dessin du Lion. C'est des étoiles qui, mine de rien, sont... Ouais, assez brillante.
Assez brillante, avec une forme assez reconnaissable, ouais.
Il y en a Mars dans les Gémeaux aussi.
Et Mars, qui s'est déplacé dans les Gémeaux, qui a passé les Taureaux, qui a passé quelques mois dans les Taureaux, là, quelques semaines, et maintenant dans les Gémeaux. Tout à fait. Et du coup, en objet en ce moment, on peut commencer par des galaxies, toujours dans la Vierge et dans le Lion. J'ai observé il y a quelques jours la galaxie du Sombrero, M104, M604, dans le Corbeau, juste en dessous du Lion. Juste en dessous de la Vierge, M13, comme je disais, qui se lève en milieu, fin de soirée. Je pense que pour les plus patients, on peut commencer à pointer M57 dans la Lyre aussi, si on est amateur de nébuleuses planétaires.
Deuxième partie de nuit, ouais.
Ouais, dans le moment où il y a Vega qui se lève et Capella qui se couche.
Ouais.
C'est marrant, toutes ces belles étoiles du Nord, quoi.
Ouais.
Mars, elle est basse quand même, plutôt, assez loin, pas si lumineuse.
Mars commence à être bien éloignée de nous, elle est du coup très peu lumineuse. À l'observation, ça ne vaut pas grand-chose du coup, elle est très petite, sa taille apparente.
Ouais, c'est simplement que c'est un point qui n'a rien à faire là dans les Gémeaux, normalement.
Oui,
c'est ça. Remarquable.
Ouais,
on la situe.
Puis rouge gauche de Castor et Pollux, là, en ce moment, toujours un peu rougeâtre. Ouais. Moins qu'il y a quelques mois, au mois de janvier, quand elle était vraiment proche.
Ouais,
c'était vraiment une gemme, un rubis dans le ciel.
Ouais. La position était belle, oui.
Ouais. Dans le Taureau. Voilà. Vous n'avez pas observé récemment, non?
Mais le temps n'a pas été très clément.
Oui, c'est ça. Ouais. On est content aussi que les beaux jours reviennent.
Ouais. Ouais.
Et puis avec la Lune qui est présente.
Ouais. On est puni.
C'est dur d'aller voir du ciel.
Là, en ce début de mois de mai, oui.
Ouais. Ça reviendra.
Alors on vous laisse à ces observations, à vos cartes du ciel, à essayer de trouver tous ces alignements. Et on va continuer avec un petit point d'astro donc sur la chute des corps. Alors l'idée en fait derrière ça, c'est vous avez peut-être un souvenir d'école ou le moment où on vous dit mais tu sais si tu prends une bille de plomb et si tu prends un bout de coton, bah, en fait ils vont tomber à la même vitesse. Ou si tu prends une boule de pétanque, ouais. Et si tu prends
une plume et un marteau.
Alors voilà, même plume, mais ça marche pas. Bon, on va reparler. Ouais, bon, en gros, chaque fois on vous dit, tu prends un truc lourd et tu prends autre chose de plus léger et tu les lances tous les deux tu les fais tomber tous les deux par la fenêtre. En fait, ils vont arriver en même temps au sol. Ouais. Donc on appelle ça la chute libre des corps, c'est-à-dire quand les objets tombent, de même libre au sens où ils ne sont pas arrêtés par le frottement. Parce que c'est évident que si vous avez un parachutiste, ça ne marche pas. Oui. Si vous avez une
plume.
Voilà, ouais. La plume, ça ne marche pas. La plume, en fait... Ben,
c'est fait pour adhérer à l'air.
Voilà, il y a une résistance de l'air. Donc en fait, pour que ça marche, pour parler de chute libre, il faut qu'on puisse dire que la résistance de l'air est négligeable, qu'elle est très faible. Donc on ne prend pas des objets aérodynamiques, on ne prend pas des choses comme ça.
Oui, on pourrait prendre deux boules de pétanque, mais une de 2 kg et une de 500 grammes, mais qui ont la même forme.
Exactement.
Là, ça tomberait.
Et là, on les lâche sans vitesse, hein, ou alors avec la même vitesse, mais en tout cas dans les mêmes conditions. On les fait tomber et elles tombent à la même vitesse. Donc ça, c'est quand même pas intuitif. Enfin, il y a un côté chez nous que ça dérange dans notre cerveau.
Ah oui, moi ça m'avait énervé, petit. Ouais. On m'a dit ça.
Or, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on a beau, on l'a faite, hein, l'expérience a été faite des centaines, des milliers de fois, et ça donne toujours le même résultat. C'est-à-dire que effectivement, la vitesse de chute ne va pas dépendre de la masse.
Mais d'ailleurs, il y a eu une des réitérations de cette expérience qui a été faite un peu à titre honorifique sur la Lune par une des missions Apollo. Ouais. C'était pas Apollo 11, mais où l'astronaute lâche un marteau et une plume, précisément, parce que je crois que c'est les termes qu'utilisait Galilée.
Là, il n'y a pas d'atmosphère, de toute façon.
Et voilà, sur la Lune, avec l'atmosphère infiniment petite, voilà, ouais. il lâche les deux, effectivement, ça arrive en même temps au sol.
Voilà, donc vérifier une fois de plus. Ouais. Donc, c'est pour mettre un peu le doigt là-dessus, et de là, on va dérouler un petit peu de physique, parce que c'est quand même intéressant. Mais sur le fait que parfois, notre cerveau ne. A du mal avec certaines notions de physique. Si on parle avec, après on parle dans l'espace-temps, d'Einstein, de trucs comme ça, c'est encore pire. Mais rien que sur des choses concrètes de la vie vraiment quotidienne autour de nous, là on n'est pas en train de parler de trou noir ou de quoi que ce soit, il y a déjà des choses assez étonnantes qui se passent et où notre cerveau, en fait, on dit c'est contre-intuitif. Mm-hmm. Contre-intuitif, ça veut dire notre cerveau, il n'est pas fait pour comprendre comme ça. Donc ça veut dire que, en fait, comme la réalité est comme ça, et qu'on a beau refaire l'expérience tant qu'on veut, c'est un fait qu'on doit accepter, et ça veut dire, en fait, que notre cerveau, il n'a pas la bonne vision de la chose. On peut le voir comme ça. Alors, quelle serait la bonne vision? Ça, c'est une autre question. C'est peut-être un peu ça, la quête de la science aussi, mais bon, voilà. En tout cas, voilà. Donc, sur cette idée-là, en fait, c'est quand même Galilée qui, en 1604, donc ça remonte un petit peu, qui lui, en fait, a fait son étude sur la chute des corps. Et en réalité, nous, Galilée, on parle souvent de lui parce qu'en astronomie, il a une place importante, parce que c'est le premier, en fait, à avoir pointé une lunette vers le ciel, tout simplement. On a déjà parlé dans cette émission il y a longtemps. Et avoir découvert autour de Jupiter ce qu'on appelle les satellites galiléens, on leur a donné son nom. Et d'avoir vu qu'ils tournaient autour de Jupiter et non pas autour du Soleil, ce qui contredisait la thèse de l'Église de l'époque, etc. etc.
Non, autour de la Terre. Plutôt qu'ils tournent autour de la Terre.
Pardon. Plutôt qu'ils tournent autour de la Terre.
Il s'est dit, tiens, là, ça tourne
tout doit
autour
tourner
la
Terre, autour de la Terre. Oui, pardon. Oui. Donc voilà, donc ils remettaient le géocentrisme de l'Église en cause. En tout cas, Galilée, il est connu pour ça par les astronomes, mais il est en réalité. Il a été plus connu à l'époque pour ses travaux sur la gravitation et sur sa fameuse étude sur la chute des corps. Et c'est lui qui a dit le premier, dans la chute libre, l'accélération que vont subir ces corps, et donc la vitesse qu'ils vont prendre, est toujours la même. Il ne dépend pas de leur masse. Alors, il a aussi fait d'autres travaux qui peuvent sembler...
Je crois qu'il... Il avait illustré avec une image, avec des cailloux, avec une expérience de pensée. Si tu prends un caillou lourd et un caillou moins lourd, de même taille, on va dire, de même forme, pour qu'il n'y ait pas de différence avec l'air.
Ah oui, tu les attaches.
Et tu les attaches. Oui. Alors, si on dit, si c'est plus lourd, ça tombe avant, ce qui était ce qu'on pensait à l'époque. On les attache avec une corde. Qu'est-ce qui se passe? le plus léger va tomber moins vite, donc il va ralentir le plus lourd qui va tomber moins vite, mais lui il va accélérer. Et bref, ça marche pas en fait. Non, il tombe en même temps.
Il tombe en même temps. Donc de toute façon, oui, ça c'était en fait, ça venait des principes d'Aristote. Donc là, on revenait à quelque chose. Donc entre Aristote, qui est quand même peut-être 1500, 1600, presque 2000 ans avant, et Galilée, en réalité, il n'y a pas eu d'avancée majeure en termes de pensée
sur
ce sujet. Quoi. Ouais. Donc lui, en 1604, quand même, il fait un bond énorme et il pose aussi l'idée de... En mécanique, on parle de référentiel galiléen parce qu'il a posé la notion de référentiel, c'est-à-dire par rapport à quoi on regarde le mouvement, dans quoi on se place. Et là aussi, c'est des trucs évidents. Vous êtes dans un train, vous êtes assis, vous avez l'impression que rien ne bouge et vous voyez bien que vous êtes en train de vous déplacer, etc. etc. Mais lui, il dit, bah oui, cette histoire de la chute libre des corps, ça marche, mais à condition que... par exemple, si vous faites ça dans un seau en train de tourner, ça ne va pas marcher. Si vous faites ça dans une boîte en train de tomber, ça ne va pas marcher, etc. Donc, il n'a pas encore forcément tout le formalisme, mais il commence à poser cette idée de référentiel et qui, en réalité... est complètement fondamentale et qui est une idée qui va aller jusqu'à Einstein. Et que c'est sur ce genre de réflexion qu'Einstein il va bâtir sa théorie de la relativité générale. Donc en fait, c'est une réflexion qui a été amorcée par Galilée en 1604, mais qui en fait est une forme d'expérience de pensée qui a mené jusqu'à des travaux les plus avancés de ce qu'on a actuellement en science.
Newton aussi, un peu entre les deux.
Je vais y venir, justement. C'est-à-dire que Galilée lui dit ça. Et là, moi ce que Newton, lui, il arrive quand même en 1687.
Un petit peu après.
Donc, c'est le même siècle, mais il est quand même plus de 80 ans plus tard. C'est quand même notable.
Quelques générations.
Et lui, il pose effectivement le principe fondamental de la dynamique. Il y a les trois lois de Newton. Et le principe fondamental de la dynamique, c'est la deuxième loi qui dit que l'ensemble des forces qui s'exercent sur un corps est égal, donc là on parle d'équation mathématique, hein, à la masse fois son accélération. Et ça, c'est le principe de toute la mécanique, quoi, de tout ce qu'on fait. Donc maintenant, si on applique ça à la chute libre, qu'est-ce qu'on voit? La somme des forces. Alors qu'est-ce qui s'exerce comme force? Bilan des forces, ça c'est vraiment l'exercice de base du physicien. Et sur un objet qui tombe, la seule force qui s'exerce, c'est son poids. Ce qui permet de faire un rappel entre le fait que le poids et la masse, ce n'est pas la même chose. La masse, c'est vraiment une propriété intrinsèque de l'objet. On va dire que c'est sa façon de réagir à la gravitation. Alors que le poids, c'est une force. Donc, quand on dit « je pèse combien », etc., c'est toujours un abus de langage. Bon, c'est un truc qu'on voit au collège. Voilà. Mais qui, dans le langage courant, est quand même... qui se mélange, quoi. Dans notre cas, la seule force, c'est le poids. Et sinon, il y a la résistance de l'air dont on a parlé, mais on dit que comme on est en chute libre, en fait, elle ne compte pas, cette résistance de l'air. Donc, un objet qui tombe, vous le lâchez, il a juste son poids. Donc, le poids en physique, la formule du poids, c'est Newton qui l'a aussi trouvé. Le poids, c'est la masse fois un truc qui s'appelle G. G, c'est la gravitation. En gros, la force qui s'exerce, c'est la masse fois la gravitation. Et au passage, ce qui est intéressant, c'est que cette gravitation-là, son unité, c'est la même qu'une accélération. C'est-à-dire que on définit un champ de gravitation par une accélération.
Mais c'est en mètres par seconde.
Et là aussi, c'est des trucs qui sortent, que Newton il sort au XVIIe siècle, et qui, en fait, dans la pensée, vont conduire Einstein. Quoi. C'est exactement toujours ce même type de réflexion. Ouais. C'est complètement pas du tout intuitif de dire, déjà de comprendre que la planète Terre exerce une gravitation, et ensuite de dire... Ben, cette gravitation, en fait, c'est la même chose qu'une accélération. Enfin, là, ça va très, très loin dans la conception des choses. Et en attendant, c'est la meilleure approche pour l'instant que notre cerveau il a trouvé pour décrire la réalité qu'on observe. Je reviens là-dessus. On n'est pas dans des élucubrations. On est dans une description d'un monde matériel qui nous entoure et qui obéit à certaines lois.
Donc, d'ailleurs, très contre-intuitif aussi, Newton disait que... Souvent, on dit, Newton, il a dit que les pommes tombaient vers la Terre, qu'elles s'attirent vers la Terre. Bon, c'était pas bien malin de sortir que ça. En fait, il dit vraiment que la pomme attire autant la Terre que ce que la Terre attire la pomme. Mais après, il a introduit la notion d'inertie pour dire que c'est pas la Terre qui va se déplacer, c'est la pomme qui va se déplacer vers la Terre. L'une et l'autre s'attirent autant.
L'une et l'autre s'attirent autant, c'est parfaitement réciproque. Mais en fait, quand tu regardes ce principe de la dynamique, la somme des forces, c'est la masse fois l'accélération. Et bien, en fait, tu regardes effectivement que plus cette masse va être grande pour une même force, plus l'accélération est ridicule.
Oui.
Puisque le produit est constant.
Ah, oui, oui.
Donc, par contre, donc, sur la Terre, ça ne bouge pas.
Oui.
Ça n'a aucun effet, l'attraction de la pomme. Par contre, la pomme, elle bouge.
Mm.
Et c'est dû à ce principe. En fait, c'est écrit, c'est contenu dans ce principe de la dynamique. Parce qu'une équation, c'est ça qui est intéressant en physique, c'est qu'une équation, c'est pas juste... ça représente des choses. Enfin, ça représente des grandeurs qui sont réelles. Et donc... ça représente des relations entre elles et des façons d'interagir.
Mmh.
Et justement, pour poursuivre dans cette voie, si on reprend ce truc, donc on a dit somme des forces, c'est la masse fois l'accélération. Et on a dit que la somme des forces, c'était quoi? Ici, c'était juste le poids. Et que le poids, c'était la masse fois G, la gravitation. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la masse fois la gravitation est égale à la masse fois l'accélération. Bon, bah, la masse, elle s'en va. Et il reste quoi? L'accélération, c'est G, c'est la gravitation. Donc, tout corps qui tombe est soumis à une accélération qui est la gravitation. Et donc ça, c'est les équations. Et ça, on est au XVIIe siècle. Quoi. Donc voilà, je voulais juste parler un peu de ça. Mentionner aussi que Newton, on l'a déjà dit, c'est quelqu'un qui, oui, est considéré par les scientifiques eux-mêmes, est vraiment considéré comme le père fondateur de la science moderne, puisque c'est le premier à avoir mathématisé le monde, on va dire, quelque chose comme ça. Et qu'il était aussi alchimiste, qu'il était beaucoup de choses, astronome, il a aussi fait de l'optique, il a fait plein de trucs. Et Galilée, pareil, là voilà encore un personnage de l'histoire qui est quand même un génie de son époque, qui remet en cause une vision qui a 1000 ans, et expérimentalement, hein, avec ses observations, oui. Qui ouvre sur l'astronomie, qui ouvre sur 400 ans d'histoire de la gravitation, et des théories de physique là-dessus, de mécanique. Voilà. Donc, comment, en fait, sur ce truc de départ qu'on nous apprend... Parce qu'en fait, je pense qu'il y a peu... Si on était livré à nous-mêmes, par exemple, il y a peu de monde qui arriverait à cette conclusion que deux corps de masse différentes arrivent à la même vitesse, arrivent en même temps au sol. Parce que qui va vraiment faire l'expérience? Qui va vraiment prendre la... Enfin, bon, faut déjà avoir envie de se prendre un petit peu la tête sur ce genre de truc. Donc, là, on nous le dit. Nous, on grandit à une époque où on nous le dit à l'école. Donc, bon, si on nous le dit, bon, ça doit être vrai. Et puis, on essaie de vaguement de vérifier. Enfin, moi, je sais... Bon, et vaguement, tu dis, bah ouais, ou peut-être. Ouais, non, mais là, il y a le frottement de l'air. Enfin, bon, bref. C'est toujours un peu vaseux. Mais...
Petit à petit...
Les plumes tombent vachement plus lentement.
Ça, c'est sûr. Voilà.
Petit à petit, entre une plume d'un
gramme et de 3 grammes.
C'est ça qu'il faut essayer.
En tout cas, ce décalage entre une réalité concrète, expérimentale, et ce que notre cerveau, il arrive à concevoir. Et voilà, moi j'y vois le signe en fait qu'il faut élargir en fait le cadre de la vision, inclure tout ça et arriver à percevoir en fait la gravitation autrement. Et Einstein, il donne des voies en allant vers ces histoires d'accélération. Mais sincèrement, c'est quand même bon, voilà, chacun de voir un peu ce que ça peut lui inspirer. On va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve après.
Ouais. On écoute Blind Willie Johnson, on l'a déjà passé je crois dans l'émission, mais on aime bien ce morceau donc on le repasse. Et il a un petit rapport avec l'astronomie, ce Blind Willie Johnson, puisque c'était un bluesman du début du siècle aux États-Unis. Enfin début du siècle dernier, faudrait dire maintenant, mais je crois qu'il est né en 1897. Et il se trouve qu'il fait partie des 27 chansons contenues sur le disque d'or qui voyage dans l'espace avec les sondes Voyager. Il y a un vinyle sur les sondes Voyager avec plein de sons humains et quelques chansons dont celle-ci. Thank you. Yes, c'était Blind Willie Johnson dans l'Étoile Polaire, ce morceau qui vogue dans l'espace, le disque le plus lointain qu'on ait de la Terre.
Elle est déjà bien loin, la sonde Voyager, ça fait toujours un peu quelque chose de penser c'est où elle est. Elle est vraiment loin.
C'est plusieurs milliards de kilomètres.
Ouais. Elle est plus ou moins en train de sortir quand même, enfin elle est déjà sortie de ce qu'on peut appeler le système solaire, elle sort presque de la zone d'influence du Soleil. Presque.
Quasiment une semaine d'ailleurs.
Et du coup.
Alors, on va continuer cette émission. Et là, oui, bah, Pierrick, tu vas continuer un peu ton discours sur l'archéo-astronomie.
Ouais, je suis parti dans ce délire-là qui est sympa. J'aime bien aussi voir comment au néolithique, de moins 2000, moins 1000, jusqu'à moins 10 000, voire moins 30 000, comment les êtres humains qui avaient le même cerveau que nous, qui étaient comme nous, observaient le ciel et essayaient de faire des calendriers, etc., par rapport à ça, de s'organiser. Et donc, dans cette émission, je parle d'archéo-astronomie, donc archéologie et astronomie, où les deux disciplines sont liées. Et là, je vais parler de Stone Age. Donc, Stone Age, c'est un alignement de pierres. Enfin, c'est circulaire, Stone Age. C'est comme un espèce de fer à cheval. D'énormes monolithes de pierre de plusieurs tonnes qui sont en cercle et qui sont alignés souvent au solstice ou aux équinoxes. Donc Stonehenge, ça veut dire pierre suspendue un peu en anglais. Enfin, il y a plusieurs définitions, mais en tout cas, c'est celle que j'ai retenue.
Oui, puisque c'est un vieux mot.
Oui, c'est... En tout cas, voilà, c'est pierre suspendue. Donc c'est vrai qu'il y a des énormes linteaux au-dessus de... d'énormes monolithes qui font plusieurs tonnes. Et tout ça en cercle, bien positionné au solstice, aux équinoxes. Donc on pense que c'est un énorme calendrier de pierre. Donc l'être humain, à un moment donné, à l'époque celtique, a priori, donc ça serait probablement les Celtes, les druides, qui auraient fabriqué cette œuvre, qui auraient mis plusieurs siècles, voire quelques millénaires à se construire. Ça se fait pas d'un coup, ce genre de choses. Oui. Et c'est un calendrier, a priori, un calendrier d'organisation, en fait. Comment tu veux organiser ta vie, la vie en société, pour les cultures, pour les rencontres, pour les rituels, tout ça. Et à un moment, il faut bien se dire, bon, bah, à telle date, on fait ça, on s'organise, quoi. Donc Stonehenge, on pense qu'il a été construit il y a 4600 ans. Donc c'est vraiment c'est assez vieux, quoi. C'est dans les premiers trucs où on peut faire un lien avec l'astronomie. Où... Bon, il y a d'autres sites, mais dans ces eaux-là, en fait, il y a les pyramides, il y a ça. Voilà, il y a des sites majeurs comme ça qu'on voit bien qu'ils ont une portée astronomique. Donc ces pierres, elles vont jusqu'à 5 mètres de haut, peuvent faire 25 tonnes. Donc c'est vraiment massif, c'est énorme.
C'est peut-être vraiment... une galère à bouger pour les gens de grandeur, ça.
Oui, mais tu parlais des pyramides ou de ce genre d'alignement. Il y a aussi un côté vraiment massif, quoi. C'est énorme.
Ouais.
Je me dis que c'est aussi des lieux c'est aussi des lieux de pouvoir.
Certainement.
Tu vois, de dire, bah là c'est le pouvoir des druides ou là c'est le pouvoir du pharaon. C'est un peu aussi manifester
la puissance
d'un monarque ou d'une classe dirigeante.
Après, ou d'un dieu, des fois aussi.
D'un quoi ?
D'un dieu.
Un dieu, oui. Ouais. Oui, c'est religieux, sûrement. Pour cultuel, quoi. Pour un lieu de culte.
Mais parce que aussi, les pharaons étaient les représentants de dieux sur Terre, du soleil sur Terre, des choses comme ça. C'est assez lié aussi.
Oui.
Ce qu'il y a dans ces monuments, c'est qu'on ne peut pas savoir à quoi ils servaient vraiment.
Non.
Il n'y a plus personne pour en parler, il n'y a pas trop d'écrits, etc.
Ils n'ont pas laissé un mode d'emploi.
Mais les pierres sont toujours là.
Les pierres sont toujours là, mais du coup, notre esprit peut vaquer à plein de considérations assez magiques, ce que j'aime bien. Et donc, Stonehenge, c'est un peu la première rencontre entre l'archéologie et l'astronomie, avec notamment un astronome qui s'est penché dessus à l'époque en 1900, je crois, qui s'appelait Norman Lockyer, qui détermine l'âge du monument en fonction de l'alignement des levées de soleil, et qui se dit, bon, bah, le lever de soleil, il se levait dans cet axe il y a à peu près 2000 ans. Du coup, on peut se dire que le monument, il a cet âge-là.
Ah oui.
cause de la précession des équinoxes.
Ouais. Et en fonction de l'époque, il s'est dit bah c'est possible que ce soit ça. Donc à l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit. Et de mêler deux disciplines comme ça, voilà, c'était nouveau. Et, c'était le début de l'archéo-astronomie. Et donc ce monument aussi, on pense qu'il servait à prédire des éclipses. Parce que les éclipses, c'était le grand moment de peur. Le soleil, symbole de vie,
le soleil
de,
qui disparaît
en pleine journée.
Ouais, je me permets que là aussi, on n'en sait rien. Comment eux vivaient les éclipses, bien sûr. Ouais. On imagine bien que ça devait un peu les traumas, mais...
Moi, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à Tintin.
Ouais.
Ça, c'est un peu... Voilà, Tintin.
Ce qui est complètement débile, d'ailleurs, puisqu'il a affaire à des Incas.
Qui sont hyper calés en termes d'astronomie,
relativement calés. Alors c'était peut-être pas les Mayas, mais bon, enfin ça va, ils s'en sortaient très bien. Et ils passent vraiment pour des débiles, qui savent même pas ce que c'est qu'une éclipse. C'est quand même hallucinant. Mais bon, passons.
En tout cas, dans notre culture générale occidentale, en tout cas moi, voilà, ça m'a fait penser à ça. Et donc plus tard, dans les années 70, il y a Gerald Hawkins qui réalise des mesures d'alignement. Et qui les soumet à un ordinateur, donc l'époque c'est les premiers IBM là, qui soumet toutes ces mesures à un ordi pour essayer de calculer plusieurs alignements, alors d'étoiles, de planètes à l'époque, de lunes, etc. Et qui trouve énormément d'alignements, plus d'une dizaine. Donc voilà, ça aussi c'est aussi un moment où l'archéoastronomie prend de l'ampleur, où l'informatique y rentre et on se dit ouais, c'était sûrement quelque chose pour observer, un calendrier, etc. Et il y a aussi une partie qui a été explorée dans les années 2000, donc on est toujours à Stone Age, hein. C'est l'archéo-acoustique, où comment ces pierres, qui sont plutôt lisses à l'intérieur du site, qui est circulaire donc, et plutôt brutes à l'extérieur. Donc là aussi, il y avait, je sors un peu de l'astro, mais il y avait une partie aussi où le son était travaillé. Donc là, on revient à plutôt quelque chose de cultuel, à un lieu de culte où il y avait de la musique, des chants, salle de concert avec une bonne acoustique, quoi. Donc voilà, ça aussi, j'avais envie de le préciser. Qu'il devait y avoir une super sensation d'immersion au niveau du son, une qualité sonore, une acoustique puissante, une résonance très longue aussi. Ça aussi, dans les... La note jouée dure longtemps. On l'entend un moment. Voilà. Donc là, je vais passer un peu à Carnac. Donc Carnac, c'est un alignement de menhirs en Bretagne, donc en France.
Ah oui, je connais un astronome qui vit à Carnac, qui habitait avant dans le sud de la France et qui me dit pourquoi je déménageais là-haut, parce qu'il fait toujours moche pour la pratique de l'astronomie, c'est compliqué.
En tout cas, il y a des sacrés alignements de cailloux là-bas. Ils ont posé beaucoup de pierres. En tout, dans tout le site un peu étendu, on compte 10 000 menhirs. Donc c'est vraiment énorme. Il y a des alignements qui durent plus d'un kilomètre de long sur 100 mètres de large. Donc c'est vraiment massif aussi, c'est vraiment énorme à voir. Je l'ai vu quand j'étais plus petit et c'est hyper impressionnant, c'est très très beau je trouve. Et donc c'est pareil, à quoi ça sert? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils sont alignés comme ça, dans ce sens-là, etc. Donc on en revient toujours au calendrier, à un alignement à un certain axe, sur une certaine étoile, etc. En vrai, on pense que c'est ça. Après, voilà, il y a tellement longtemps que c'est dur à dire. Et une petite chose qui m'a marqué, c'est aussi en Bretagne, donc c'était beaucoup des marins. Il y avait beaucoup, c'était un peuple de marins à l'époque. Et du coup, de faire des calendriers avec la lune, notamment, de savoir quand elle se lève, quand elle est pleine, quand c'est la lune noire, etc. Et ben, on pouvait prédire les marées. Et quand tu es marin, de prédire les marées pour passer c'est certains utile, endroits, ouais. C'est hyper, c'est même, c'est obligé vital, de le quoi. Savoir, c'est vital. Voilà. Donc là aussi, il y a quelque chose, notamment à Ouessant. Donc Ouessant, c'est l'île la plus à l'ouest de France, c'est vraiment l'île perdue plus loin des côtes, qui a aussi ses monolithes, ses menhirs et tout ça. Et là, c'est plus visuel, donc j'en avais parlé dans, pas l'émission d'avant, mais celle encore d'avant. 45, qu'il y a aussi en archéoastronomie des endroits où simplement la nature, si tu as un certain endroit et qu'il y a un sommet plus loin, te crée un alignement tous les ans au même endroit.
Oui.
Et donc sur l'île de Ouessant, eh ben, il y a un archipel d'îles à proximité et que si tu es à un endroit, donc je trouve qu'il y a un monolithe, un menhir à cet endroit-là, si tu te mets à cet endroit-là et que tu regardes les îles, tu peux te dire à chaque année, le soleil se lève là, à telle date, la lune se couche ici, et donc tu peux prévoir encore une fois ces idées de marée, c'est-à-dire il faut attendre cette lune-là pour pouvoir passer ici, parce que sinon ça passe pas en bateau, sinon le courant il va dans l'autre sens, etc. Donc il y a, voilà, ça sert à quelque chose, c'est pas juste comme ça, il y a aussi une fonction très terre-à-terre, très logique. Et comment ils faisaient pour mesurer ces alignements? Alors, j'ai vu un instrument qu'on n'a pas retrouvé de traces, mais qui expliquerait peut-être pourquoi ils ont fait des alignements de menhirs là, sur un kilomètre de long, ouais, où toutes les pierres sont alignées, tous les, je sais pas, mètres, deux mètres, enfin, c'est vraiment très clair. C'est qu'ils font un cadre en bois, avec un observateur qui a un point clé, et au moment du lever ou du coucher des astres, ben, ils notent sur le cadre en bois où ça arrive en bas à l'étoile. Elle monte, elle monte, elle monte, elle va passer en haut du cadre à un moment donné. Donc là aussi, tu notes, et ça te fait un angle, ça te fait une ligne. Donc si tu rajoutes à ça un truc horizontal de niveau, avec un niveau à bulle, ou enfin, à l'époque, ils savaient faire.
Avec de l'eau.
Tu as un angle, tu peux définir des lignes, etc. Donc ça serait peut-être comme ça, parce que comment tu fais pour aligner des menhirs sur des kilomètres? Il faut une référence, il faut quelque chose. Donc on pense qu'ils ont fait des relevés comme ça, avec des cadres gradués, etc.
C'est trop bien. Ils sont servis des étoiles pour construire l'outil qui sert à se référer aux étoiles pour avoir des dates, quoi.
Bah sûrement.
C'est trop bien.
Ouais, c'est quand même. C'est une logique qu'on a perdue, je pense, mais qui est très très belle et puissante, cette façon de réfléchir avec un caillou et deux bouts de bois, quoi.
Ouais.
Et arriver à faire ça, moi je trouve ça beau. Et pour finir cette petite chronique, je voulais parler à Adi aussi. En 2013, quand ils ont agrandi la zone d'activité de Chamarge, ils ont trouvé un tumulus. Une construction, un tas de cailloux circulaire, on va dire, de manière très orientée, qui faisait quand même 12 mètres de diamètre. Donc il y a eu des fouilles à cette époque-là, et ils ont trouvé ça à Chamarge, donc il a dit. Bon, depuis, ils ont mis des bâtiments pour la zone artisanale par-dessus. Bon, en tout cas, il y a plein de petites vidéos sur Internet où ils ont tout bien mesuré, tout regardé. Et c'est pareil, ça date de la période néolithique, on pense, donc moins 2000, moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Et c'est la première fois qu'on trouve ça dans la Drôme. Voilà, je voulais en parler parce que c'est quand même intéressant. Et c'est pareil, c'est un mini calendrier à l'échelle locale ici, quoi.
Ça laisse penser qu'on connaît Stonehenge, mais que peut-être partout sous nos pieds, aux quatre coins de la France et d'ailleurs, il y a ce genre de reliques sous terre qui témoignent d'un moment où on utilisait les étoiles pour la datation, pour le calendrier.
Exactement.
Parce que j'imagine qu'un Drômois à l'époque, il n'allait pas à Stonehenge pour savoir quelle date il était pour revenir. Donc c'est bien qu'il y en avait un peu partout.
Et ouais, il y avait une vraie organisation sûrement, vraiment poussée. On oublie, on ne s'en rend pas compte. On pense qu'ils étaient un peu débiles des fois, mais non, ils étaient bien là et ils avaient des choses intéressantes. Voilà.
Super, Pierrick. Fascinant. Ouais. On va continuer sur un autre registre. Et repartir avec Rémi qui se promène. Rémi se promène et on lui paye des voyages en fait dans l'émission. En Australie, on verra.
Oui, là on avait moins de budget.
On avait moins de budget, donc quelle il est chance. Parti au pic de Bure.
Eh bien oui, moi j'avais envie qu'on discute un petit peu d'une sortie un peu spéciale là, que j'ai pu faire le week-end dernier qui a consisté à visiter l'observatoire du plateau de Bure. Donc le plateau de Bure, c'est non loin du pic de Bure, dans le massif du Dévoluy, donc massif voisin.
À 2 heures de dit, quoi.
Ouais, à peine, ouais, c'est ça. Ouais. On passe le col de Cabre et puis on est vite de l'autre côté. Et donc, ouais, je parlais de marche en début d'émission parce que l'accès se fait à pied. Donc on a 1200 mètres de dénivelé. Et en ce début mai, on trouve encore la neige là-haut.
C'est à 2700 mètres, hein. C'est haut le plateau.
Le pic, il est à 2007 et le plateau, il est à 2550 à peu près.
C'est quand même, c'est haut. Hein.
C'est une ambiance assez particulière. Il y avait mauvais temps en arrivant là-haut et du coup, brouillard, on marchait. Au bout de 1200 mètres, on marche tout seul. Hein. Et du coup, à l'avant...
Ça a pris un côté mystique.
J'ai mon collègue qui était sûrement 50 mètres devant, et puis à un moment, une antenne est apparue. Ambiance sibérienne, quoi.
Un dôme,
On décrit un côté lunaire sur ce plateau, quand même, sans aucune végétation.
Caillouteux. Oui. Là-haut, il n'y a pas d'arbres. C'est caillouteux, c'est un peu herbeux. Moi, j'ai vu en neige. Donc,
oui, en l'occurrence, là, c'était enneigé.
Vraiment, c'était ambiance sibérienne. Et donc, non, là-bas, il n'y a pas de dôme. Là-bas, c'est un observatoire radio.
Okay.
Du coup, c'est un dispositif d'antennes, des antennes qui font à peu près 15 mètres de diamètre chacune. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, il y en a 12 en fonction. Du coup, c'est assez intriguant. Les 12 fonctionnent en simultané. C'est un système d'interféromètre. Je reviendrai là-dessus par la suite. Mais du coup, c'est des antennes qui pointent le ciel de jour comme de nuit, par beau temps, par mauvais temps, et donc qui explorent le ciel par les ondes radio, quoi.
Oui, pas par la lumière comme dans un télescope classique.
Mais... Au-delà de la lumière visible, c'est-à-dire que chaque objet, chaque corps dans l'espace va émettre dans les ondes électromagnétiques bien au-delà de la lumière visible, quoi. Et donc du coup, c'est tout l'intérêt de cet observatoire.
Ouais, on rappelle que c'est une question de ce qu'on appelle de longueur d'onde, c'est-à-dire que le spectre électromagnétique est assez vaste et part effectivement des... il y a le visible. Le visible n'est qu'une toute petite partie de ce spectre électromagnétique. Et ça peut paraître étrange de parler d'ondes radio qu'on associe plutôt à du son comme étant un signal électromagnétique, mais en réalité, il n'y a pas de différence entre la lumière et les ondes radio. C'est la même nature d'objet. Et les longueurs d'onde changent. Alors après, il y a les infrarouges, les ultraviolets, par exemple, que l'œil humain ne voit pas, mais qui sont là et qu'on détecte et dont on voit les effets. Et il y a des rayons plus énergétiques, type X et gamma. Et il y en a aussi des moins énergétiques. Donc, au-delà de l'infrarouge, on arrive dans les ondes radio. Et les ondes radio, c'était juste pour mentionner ça. On en reparlera après, des interféromètres radio et un petit peu ce qu'on peut faire en radioastronomie.
Oui, ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais, c'est sur les ondes radio, il y a tout un domaine qu'on peut acquérir depuis la Terre. C'est-à-dire qu'on a analysé les ondes qui nous sont possibles d'acquérir et les ondes pour lesquelles il faut sortir de l'atmosphère. C'est-à-dire qu'on a aussi des télescopes dans l'espace qui sont faits pour de la radio, quoi. On a accès à d'autres fréquences. Il y a les longueurs d'onde, les fréquences, les cils et ça.
De toute façon, l'atmosphère, elle filtre. Elle filtre, que ce soit la lumière ou que ce soit, elle filtre dans toutes les longueurs d'onde, plus ou moins, mais elle filtre. Donc c'est clair que ce soit, même en radioastronomie, ils ont intérêt à avoir des télescopes spatiaux.
Ouais. Tout à fait. Du coup, d'où l'implantation de l'observatoire du plateau de Bure. En fait, la construction, elle a commencé en 1985 et c'est un projet qui est hébergé par l'IRAM, donc c'est l'Institut de radioastronomie millimétrique, qui est accompagné par le CNRS directement. Et donc, ils cherchaient un plateau qui soit le plus au sud possible du point de vue de l'équateur et il fallait que ce soit à 2000 mètres d'altitude parce qu'en fait, les ondes radio, ce qu'ils nous expliquaient là-bas, c'est qu'elles se perdent en basse altitude de par la vapeur d'eau qui est plus présente à la surface.
Ouais. Ça se diffuse. Quoi,
voilà.
Que la vapeur d'eau absorbe beaucoup en fait, ces ondes, ces longueurs d'ondes-là. Et donc, dès qu'il y a de la vapeur d'eau, le télescope devient aveugle.
Oui, c'est tout à fait ça. Et du coup... ils ont construit l'observatoire donc à 2500 mètres d'altitude, où il fait souvent moins 30 degrés l'hiver. ils ont des vents à 200 km/h. Enfin, bon, il y a tout un processus de construction qui allait avec. Quoi.
Je crois qu'il y a un téléphérique qui monte là-haut.
Alors voilà, il y a eu un.
Il y a eu d'ailleurs des morts.
Accident,
il y a eu un accident tragique en 1999. Qui a fait que, du coup, ils ont arrêté de s'en servir, qu'ils l'ont réparé. Il y a eu un nouveau déraillement plus tard. Et donc
ouais,
là,
c'est vraiment un plateau difficile d'accès.
C'est difficile d'accès, c'est pour ça que je parlais de marche. Et eux-mêmes, les scientifiques et les opérateurs qui montent là-haut, montent à pied, quoi.
Ah ouais,
par le côté nord-ouest, quoi, par Super Dévolu.
Ouais.
On est monté par la face sud, qui était assez agréable, mais un peu plus longue.
D'accord.
Mais sans ça, l'accès se fait à pied. Et là, il est question qu'à l'automne, le téléphérique soit à nouveau opérationnel et puisse à nouveau transporter du monde. Du coup, c'était assez intéressant de rencontrer une partie de l'équipe là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment... Il y a des scientifiques qui montent de temps en temps, mais en fait, tout se fait à distance. C'est surtout des commandes, des créneaux, comme ça se fait dans les observatoires, dans le monde, les observatoires professionnels, où les gens cherchent à acquérir des informations. Et du coup, sur place, on a surtout un opérateur qui va gérer toutes les machines, un mécanicien, un électrotechnicien, un astronome, astrophysicien qui va pouvoir faire le lien, vérifier aussi que toutes les données, tout le travail est bien fait. Et puis, on a un cuisinier, un infirmier, voilà. Donc, ils sont au maximum 7 personnes là-haut à travailler.
À l'année, ça, ils sont...
Ouais, à l'année, c'est-à-dire que en fait, ils nous expliquaient qu'ils travaillaient sur des échelons de 12 heures. Et puis, au bout de 12 heures, il y a une autre équipe qui est de la même constitution qui les relaie.
Okay.
Et ils redescendent. Ils passent une semaine sur place. Et le temps de redescendre, le temps de remonter, ils redescendent 3 semaines plus tard. Et donc, parfois, en hiver, il n'est pas possible de redescendre, quoi. C'est le mauvais temps, tout ça.
C'est pas bon pour la vie de famille.
Voilà, ouais.
Cette affaire.
Non, ça c'est sûr, mais en tout cas, ça sert beaucoup la science et c'est assez intéressant à sentir, quoi, depuis là-haut. Et donc nous, spécialement dans le mauvais temps, on s'est fait héberger, on s'est fait mettre à l'abri dans l'atelier de maintenance et d'assemblage aussi de toutes les antennes.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est un atelier qui fait quasiment 30 mètres de haut avec une porte... qui est au gabarit des antennes.
Wow.
Il faut savoir qu'il y a 12 antennes qui sont sur des systèmes de rails. C'est-à-dire qu'elles peuvent bouger, peuvent rentrer dans l'atelier, se faire
réparer,
contrôler, tout ça. Chaque antenne est 15 mètres de diamètre, elle pèse une centaine de tonnes. Et il y a une multitude de miroirs dessus. Chaque miroir est fait vraiment pour acquérir le moindre signal. Et de par son propre poids, quand l'antenne bascule, toute la structure se déforme. Donc chaque miroir, il est composé de 5 moteurs qui
reforment le miroir.
Comme en optique, il y a un multimiroir.
C'est ça, du coup, à savoir qu'un miroir de radiotélescope, ça ne ressemble pas à un miroir, au sens où il n'est pas réfléchissant forcément.
Non, c'est une matière vibrante. Il nous parlait en
ça
image.
Ça peut être en métal ou autre chose.
Par exemple, avec un grillage à poule, ils arrivent à faire à recevoir des ondes, quoi. Tout dépend du capteur qui est lié, quoi.
C'est un truc conducteur, quoi.
Ouais, c'est très conducteur et voilà. Pour revenir un petit peu à la radioastronomie, moi, je m'apercevais pas du tout qu'est-ce qu'on va capter, quoi. Et donc, par exemple, on a appris là-bas que l'hydrogène, par exemple, qui est l'élément le plus abondant dans l'espace, lui, il a une longueur d'onde de 21 cm. Du coup, effectivement, avec un grillage à poule et un capteur adéquat, on arrive, en pointant des nuages d'hydrogène, à recevoir du signal. Quoi.
Ouais.
Après, l'intérêt là, de ces observatoires de type interféromètre, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en lien plusieurs antennes pour avoir le plus de précision possible. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une antenne de 15 mètres, on en a 12 de 15 mètres. Et donc, on connaît exactement par tout système de rails, on peut éloigner les antennes au maximum de 1600 mètres là-haut. C'est-à-dire que c'est comme si on avait un télescope aussi large au final, en mettant en corrélation tout ça.
Mmh.
Ça permet d'avoir ce qu'ils appellent une résolution angulaire. Donc, en optique, on a aussi ça sur la précision de la photo, la définition.
Mmh.
On va chercher dans les secondes d'arc. Et là, ils arrivent à avoir une précision à 0,1 seconde d'arc. Donc c'est quelque chose qui est ultra précis. Et quand on voit des graphiques, parce que concrètement, quand on voit derrière les écrans, c'est des graphiques, des pics, des ci, des ça. Et plus on zoome dans les graphiques, plus on arrive à distinguer des variations. Ouais. Ouais. Et du coup, chaque molécule émet dans un certain pic.
C'est des signatures.
Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est hyper intriguant. Je ne connaissais pas du tout la radioastronomie.
La radioastronomie, ce qui est aussi... Parce que le principe de l'interférométrie, il existe aussi en optique. Il n'est pas spécifique à la radioastronomie.
Il se fait, mais beaucoup plus rare.
Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup fait ça sur des petites antennes, en fait, qui, éloignées, en fait, font comme une espèce de maillage qui reconstituerait, on va dire, comme une antenne de la taille des deux plus éloignés, quelque chose comme ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ça permet d'étudier effectivement le milieu interstellaire, des choses comme ça. Mais si on pense aussi aux idées de redshift, c'est-à-dire de décalage vers le rouge, on en a déjà parlé, mais dès qu'on observe, en fait, du fait de l'expansion de l'univers, plus on observe loin, plus on a l'impression que toutes les galaxies, enfin c'est pas une impression d'ailleurs, plus toutes les galaxies s'éloignent de nous. Et en fait, plus elles sont loin et plus elles s'éloignent vite, en fait. Et du coup, ça, il y a un effet qu'on appelle l'effet Doppler, on avait fait une émission dessus, je ne vais pas y revenir, mais qui fait que les longueurs d'onde qu'on détecte, au lieu de les voir dans le visible, on les reçoit en radio. L'effet Doppler, la radio, c'est... Ouais, l'effet Doppler, c'est...
C'est comme les ambulances, quoi. Quand elles arrivent, elles s'éloignent, voilà. Une référence.
Bon, pour expliquer ça, ça prend un peu plus de temps. Mais en tout cas, on le mentionne. Et ça permet aussi à la radioastronomie, du coup, de sonder le ciel très lointain. Souvent, on se retrouve dans des longueurs d'onde radio, parce qu'on est très, très loin. Quoi.
Hop, c'est intéressant, la façon dont ils pointent. Comme nous, par exemple, en optique, on va pointer et voir de la lumière. Eux, ils vont capter un signal. Et puis, il va falloir qu'ils étalonnent le système, c'est-à-dire qu'ils captent le signal, mais ils ne sont pas prêts à le recevoir. Après, ils décalent, ils se mettent juste à côté, dans un endroit où il n'y a rien. Et là, c'est la référence. Donc du coup, bon, y a un petit grésillement et tout. Et quand ils reviennent sur un endroit qui émet, c'est là qu'en ayant calibré tout ça...
En ayant supprimé le bruit de fond.
Voilà, ouais. La référence, ouais. C'est une belle technique. Donc voilà, la randonnée vaut le détour, direction le plateau de Bure. Ouais. Et puis.
Vous pouvez avoir la chance d'accéder à la visite parce que c'est pas.
Ah ouais, bien sûr. Ouais. Bah, je remercie Marc Braillon, du coup, qui a su nous emmener là-bas. Salut. Et n'hésitez pas à aller en montagne. Même la nuit, le ciel est vraiment beau.
Bon, on vous remercie d'avoir suivi cette émission et on espère vous retrouver la semaine prochaine. Belle nuit à vous.
Ouais. Au revoir.
Salut.
Bonne observation.